Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Jean Frédérix.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Aujourd'hui encore, l'économie emprunte le sentier de la guerre et c'est au plus près des champs de bataille que notre réflexion nous mène. Comment la vie économique parvient-elle à se maintenir dans la violence des conflits ? Pendant l'occupation allemande, des circuits parallèles tentent de lutter contre les pénuries et c'est toute une économie souterraine qui s'organise. Un marché noir tantôt réprimé, tantôt toléré par les autorités. En Syrie, la guerre civile a contraint les populations à inventer de nouveaux modes de survie dans les territoires bombardés comme dans les camps de réfugiés. Il est 14h sur France Culture et l'écho de la guerre est parvenu jusqu'à nous. Comment survivre en temps de guerre ? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités. Leïla Vignal, géographe, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2, spécialiste de la Syrie et du Moyen-Orient, et Kim Osterlink en duplex de Bruxelles, professeur de finance à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. À 14h50, ce sera l'heure du journal de l'écho, présenté par Xavier Martinet. Bonjour Leïla Vignal et Kim Osterlink.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, il faut peut-être faire une distinction entre l'économie de guerre et l'économie en temps de guerre, c'est-à-dire peut-être entre une économie qui serait dirigée par l'État pour soutenir l'effort de guerre et celle qui s'organise davantage au quotidien parmi la population, Kim Osterlink.
Oui, il y a une distinction assez claire entre les deux. Donc, premièrement, l'État doit arriver à soutenir l'effort de guerre, ces efforts sont énormes. Et donc, il va mettre en place tout un système pour se financer. Et donc, ça va passer par l'émission d'emprunt d'État de manière importante, ça va passer par l'émission de monnaie, ça va passer par l'augmentation des impôts. Et donc, toute cette masse d'instruments qui vont être mis en place vont permettre à l'État soit de financer le conflit, soit de financer, ça c'est le cas de la France sous l'occupation, sa propre occupation.
Et face à cet effort de guerre, les populations vont devoir s'organiser, mais c'est une distinction, Leïla Vignal, qui marche peut-être un peu moins bien dans le cas d'un conflit civil comme celui qui a eu lieu en Syrie.
C'est-à-dire que dans le cadre d'un conflit interne dans lequel il y a plusieurs parties qui sont donc en confrontation, effectivement cette distinction qui fonctionne assez bien dans le cadre de guerre interétatique fonctionne un peu moins bien. Je voudrais juste revenir à la définition que Roland Marshall donne de l'économie de guerre. Il la définit comme les formes économiques qui rendent le conflit possible et reproductible sur une échelle élargie. Et donc, pour financer le conflit, finalement, toutes les parties en conflit ont recours à une économie de guerre, à cette économie de guerre, sous des modalités diverses, pour financer leur propre effort de guerre, y compris l'État.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la recherche économique, justement, sur cette économie de guerre, sur cette économie dans la guerre? Est-ce que l'accent a été toujours mis, peut-être, davantage, Kim Osterlink, sur l'effort de guerre, davantage que sur la capacité de résilience des populations?
Il y a effectivement deux courants dans la littérature. Il y a un courant qui s'intéresse essentiellement à la compréhension de la manière dont les États ont pu financer leurs conflits. Et ça, il y a une assez vaste littérature. Et puis, de manière peut-être plus récente et qui se développe de plus en plus, il y a une interrogation sur comment les populations vivaient à l'époque. Mais ce sont effectivement deux pans de recherche différents.
Et c'est peut-être particulièrement compliqué de savoir comment les populations s'organisent en temps de guerre. Leïla Vignal, vous vous êtes intéressée à cette question en Syrie et on sait que c'était évidemment un territoire quasiment inaccessible pour les journalistes comme pour les chercheurs.
Oui, alors dans le champ justement des études plutôt sur les conflits internes, on voit un peu le même genre de dichotomie dans la littérature. Une partie de la littérature qui est consacrée vraiment à ce qu'on appelle à l'économie de guerre et qui a beaucoup travaillé notamment par exemple la figure des warlords, des profiteurs de guerre, etc. Et puis une partie de la littérature, mais qui est finalement beaucoup plus explorée par les anthropologues notamment et un petit peu les géographes, qui s'intéressent aux conditions de reproduction de la vie matérielle sociale et de la vie économique dans un cadre conflictuel.
Et sur la question de votre méthode, à vous, Leïla Vignal, pour tenter de savoir comment les habitants à Alep, par exemple, s'organisaient pour faire face aux restrictions liées à la guerre, comment est-ce que vous vous y êtes prise?
Alors moi, je travaille à partir de l'extérieur de la Syrie, ne pouvant pas avoir accès au terrain syrien pour faire un véritable travail de terrain, de recherche, qui nécessite du temps, des contacts, la confiance des gens et donc des conditions qui n'existent pas pour le moment en Syrie. Je travaille à partir évidemment de tout ce qui sort de la Syrie. Il y a énormément d'informations qui sortent de la Syrie, à partir des rapports qui sont produits par les organisations internationales et les ONG qui travaillent sur le terrain. Mais je travaille surtout beaucoup à partir des récits des Syriens qui sont dans la diaspora, et notamment je travaille beaucoup à partir du Liban et à partir de mes interlocuteurs au Liban qui restent en contact extrêmement proche avec l'intérieur du pays. Non seulement je glane une information extrêmement précieuse sur les conditions en Syrie jusqu'à leur départ, mais aussi sur les conditions en Syrie actuelles, puisqu'il y a cette proximité grâce aux réseaux sociaux qui est maintenue entre les populations extérieures et aux populations intérieures. Et ce terrain par l'extérieur me permet par ailleurs d'observer l'importance prise par la Syrie de l'extérieur, cette diaspora de réfugiés de 7 millions de personnes, pour reproduire, soutenir la Syrie de l'intérieur.
Kim Osterlings, vous vous êtes intéressé au marché noir, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, et vous vous êtes appuyé principalement sur des archives. Quel a été votre matériau ?
Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec l'histoire, c'est qu'on peut voir le point de vue des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai à la fois des sources d'archives des forces d'occupation et des sources d'archives des Français du quotidien, je dirais. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre les deux points de vue pour un objet complexe comme le marché noir. Et puis, par ailleurs, je peux travailler sur base de données chiffrées quand j'ai la chance d'avoir des données quantitatives. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on constate que la vision qu'on a des marchés noirs n'est peut-être pas celle que le grand public a de manière générale quand on commence à travailler sur ces sources. Par exemple, si on pense au marché noir de l'or sous l'occupation, on imagine un marché noir qui est fortement réprimé, qu'on doit vraiment se cacher. Et en faisant le travail d'archives, ce qu'on constate, mes co-auteurs, Georges Gallet-Amono et Van Wang et moi, c'est qu'en fait, ce marché noir, il est connu. J'ai un mémo allemand qui nous explique à un moment donné qu'il faut acheter l'or sur le marché noir le lundi parce que la contrebande passe le week-end et donc les prix sont plus bas. Et donc ce marché noir est un marché noir, mais il est quand même assez bien documenté.
Alors on va voir qu'effectivement les autorités françaises et allemandes jouent un rôle assez ambigu vis-à-vis de ce marché noir, on va y revenir. Mais d'abord, d'une façon peut-être un peu plus générale, ce que l'on constate, Leïla Vignal, c'est que même en temps de guerre, il y a une routine qui s'installe. On pourrait imaginer que c'est le chaos permanent, mais ça n'est pas le cas.
Écoutez, en temps de guerre, ça c'est des travaux qui ont montré ça dans différents contextes et que j'ai pu constater aussi également dans le cadre de la Syrie, c'est qu'évidemment il y a des conditions de vie qui sont ultra contraintes et puis une fluidité des situations à la fois au niveau national et puis au niveau individuel. Donc ce qu'on dit pour une région ou pour un groupe de personnes n'est pas valable au même moment pour une autre région, un autre groupe de personnes. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement les gens ne font pas seulement que subir, mais qu'ils s'adaptent aussi. Et c'est le cas également pour les réfugiés à l'extérieur du pays qui sont dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui ne sont par ailleurs pas pour autant en suspens dans l'air et qui s'adaptent et trouvent des voies alternatives pour survivre au quotidien.
Je voudrais vous faire entendre le témoignage d'entrepreneurs syriens qui ont été interrogés sur France Info en 2013, donc 2 ans après le début du conflit.
On souffre. Là, on essaie de limiter nos pertes. On ne peut pas simplement mettre la clé sous la porte. On a une responsabilité envers nos salariés et notre pays.
Le gouvernement italien a décidé l'embargo total, même pas animé. Ils seront sanctionnés s'ils m'envoient animé.
Ces sanctions, finalement, qui elles ont touché? Est-ce qu'elles ont touché le régime? Pas du tout. Elles ont touché la population. Elles ont touché les entrepreneurs. Elles ont touché les petits ouvriers, les petits employés.
Alors, il y a plusieurs questions qui sont soulevées ici, Leïla Vignal. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, d'une façon peut-être un peu globale, quel impact la guerre a eu sur le tissu industriel syrien ?
Alors, évidemment, un impact très important. Alors, le tissu, l'industrie syrienne n'est pas le secteur de pointe de l'activité de l'économie syrienne. Était quand même un secteur assez limité. Mais il est dévasté, et notamment parce qu'il était très concentré autour des deux grandes métropoles de la Syrie, Alep d'une part et Damas d'autre part, Alep étant vraiment la grande ville industrielle du pays. Et une partie de cette industrie était notamment localisée dans une zone industrielle qui s'appelle la zone de Chernajar, qui est au nord de la ville, et qui a été complètement pillée. Et par ailleurs, les tissus industriels à Damas étaient concentrés plutôt dans la périphérie de Damas, qui a été pendant longtemps sous la domination de groupes opposés au gouvernement et qui ont été bombardés. Donc la destruction du tissu industriel est extrêmement importante. À Chernajar, on estime qu'il y a à peu près 10% seulement des entreprises qui sont toujours en état de fonctionner aujourd'hui.
Alors il y a l'impact des destructions et aussi des sanctions économiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est dit ici sur le fait que ça touche aussi les populations civiles et les travailleurs ?
Les sanctions économiques ont été tout à fait ciblées. Malgré tout, l'essentiel des sanctions économiques ont ciblé des proches du régime, des hommes d'affaires proches du régime.
C'était surtout sur le pétrole et le tabac, notamment.
Voilà, sur un certain nombre de secteurs de secteurs d'importation en Syrie, et puis
d'exportation,
d'importation vers la Syrie. Et puis, ce sont surtout des gels des avoirs qui ont été prononcés à l'encontre de personnes proches du pays, et d'interdiction de voyager. Il n'y a pas eu de sanctions, par exemple, sur les médicaments, sur les produits importants pour la vie du pays.
Mais ce qu'on constate, de toute façon, c'est que plus la guerre est longue et plus ses conséquences économiques sont lourdes. En l'occurrence, la guerre en Syrie a duré 8 ans. Et alors, on peut considérer qu'elle n'est pas finie si on pense, par exemple, au Kurdistan syrien. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, Kim Osterlings, de ce lien entre la durée de la guerre et ses conséquences économiques?
C'est logiquement, plus la guerre dure, plus les conséquences économiques seront importantes. Juste pour rebondir par rapport à ce qui avait été dit précédemment sur l'habitude et la routine, je pense que c'est quelque chose qu'on constate dans tous les conflits. Pour la Seconde Guerre mondiale, le syndic des agents de change de Paris, en décembre 40, explique qu'il faut être optimiste, parce que finalement, comme il y a des périodes troublées, il y aura peut-être plus d'affaires à faire qu'avant. Et donc, les gens s'adaptent de manière très forte pendant le conflit, et donc savoir plein de conséquences à long terme, pour répondre à votre question. Premièrement, il y aura cette adaptation. Il va y avoir des changements en termes de concurrence. Donc, si je reprends l'exemple des marchés financiers français, ce qui va se passer, c'est que la Bourse de Paris va être placée sous un régime différent que la Bourse de Lyon, qui est en zone non occupée. Et la Bourse de Lyon va pouvoir faire plus de choses. Elle va connaître un boom incroyable, alors qu'elle était moribonde avant-guerre. Et puis, on va aussi avoir des reconversions. On est, par exemple, aux Pays-Bas sous l'occupation, où vous avez des entreprises qui étaient des marchands de tabac ou des entreprises d'éménagement qui, pour des raisons évidentes de rationnement, ont très peu de chiffre d'affaires, qui se reconvertissent et deviennent marchands d'art. Et donc, tous ces éléments-là font qu'au plus la guerre va durer, au plus il va y avoir d'adaptation et de changement, et au plus, à l'issue de la guerre, on va avoir une économie qui va être configurée différemment. Et surtout, au plus la guerre dure, au plus on va avoir de dépenses publiques à financer après-guerre.
Peut-être un lien que l'on peut tracer entre la France de la Seconde Guerre mondiale et la Syrie, c'est cette idée d'une fragmentation du territoire qui entrave largement l'activité économique, Leïla Vignal ?
Tout à fait, c'est un lien avec la question précédente que vous me posiez sur les conséquences sur le tissu économique. C'est-à-dire qu'en Syrie, pendant les années de guerre, le pays a été fragmenté sous l'effet de contrôles territoriaux différents selon le positionnement des groupes en conflit. Donc il y a eu l'émergence de frontières intérieures sur le territoire syrien. Certaines parties du territoire syrien sont toujours hors du contrôle des forces gouvernementales aujourd'hui, mais il y a eu une période où le pays était complètement fragmenté sous l'effet de ces fronts de ces fronts intérieurs. Et ce qui a accentué évidemment l'effondrement de l'économie, puisque les circuits économiques qui fonctionnaient à l'échelle nationale ont été coupés pendant toutes ces années. Ce qui explique une des modalités d'adaptation des hommes d'affaires, puisqu'on a eu ce son intéressant d'un homme d'affaires syrien qui disait qu'il fallait continuer à faire tourner l'usine pour préserver l'emploi, et préserver l'emploi des des Syriens. Les hommes d'affaires se sont adaptés, ceux qui n'ont pas eu leur usine détruite, évidemment, ou pillée, les hommes d'affaires se sont adaptés et ont notamment restreint leur faisceau géographique d'activité. C'est-à-dire que les hommes d'affaires qui exportaient à l'autre bout du pays ont trouvé de nouveaux marchés plus proches de leur centre de production.
L'économie s'est relocalisée.
L'économie s'est contractée. Territorialement.
Et alors, est-ce que c'est lié, Leïla Vignal, aussi à cette contractation de l'économie, à cet état d'incertitude qui intervient en temps de guerre et la perte de sens qui l'accompagne? C'est ce qui fait aussi que l'on ne se lance pas dans des activités économiques, très simplement.
Alors, il y a deux processus. D'abord, c'est une adaptation un peu rationnelle. Donc, par exemple, ces hommes d'affaires qui contractent géographiquement leur activité économique, eh bien, c'est pour ne essayer d'éviter de voir leurs marchandises taxées sur les routes, hein, puisque dans la Syrie en guerre, faire circuler sa marchandise sur les routes nécessitait de passer par différents checkpoints, et puis il y avait des formes de taxation peu officielles, informelles sur les routes. Donc c'est une façon très pragmatique d'essayer d'éviter de voir sa valeur ajoutée ponctionnée. Et puis par ailleurs, excusez-moi, le deuxième volet de votre question,
la question de la perte de sens. C'est de l'incertitude et de la difficulté à se projeter dans l'avenir.
La question, absolument, et conduit à les investissements ne sont plus du tout les mêmes en Syrie. Les personnes qui peuvent investir en Syrie et qui souhaitent investir en Syrie investissent soit dans des territoires qui ne sont pas touchés par le bombardement, c'est-à-dire les territoires tenus par le gouvernement qui ne bombarde pas ses propres territoires, ou alors ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une espèce de translation de l'activité dans l'économie de guerre, c'est-à-dire essayer à partir du moment où le cœur de la production de valeur est détruit, que ce soit l'agriculture ou l'économie, que les marchés nationaux sont complètement démantelés puisque il y a des bombardements partout, une partie de la population est partie. Il faut bien essayer de trouver comment produire de la valeur, et cette valeur, elle est produite dans l'économie de guerre.
Le pharmacien a refusé. Il dit qu'on lui donne trop d'argent. Il faut faire comme la dernière fois. On va mettre de l'eau, sucré, salé. Ça te permettra de tenir 2 ou 3 jours. Maintenant, t'es parti. Je n'ai plus personne. À mon avis, elle sait pas ce qui nous est arrivé. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu m'abandonnes pas? Tes frères aussi sont partis. Avec ta mère. Ta frère qui était si fière de te voir te battre. Ta mère qui répétait sans cesse qu'elle se sacrifierait pour une mèche de tes cheveux. Ils se sont tous semés. Tu crois pas qu'ils auraient mieux fait de m'aider? Bande de lâches.
Bande de lâches, l'actrice Golshifteh Farahani dans le film Singe Sabour, réalisé par le romancier Atik Raimi. Une femme veille son mari, un héros de guerre plongé dans le coma pendant la guerre en Afghanistan dans le film. Ce que l'on peut dire peut-être, Kim Osterling, c'est que insister peut-être sur le rôle des femmes en temps de guerre. On l'a vu avec le fait que pendant la Première Guerre mondiale, le départ des hommes au front avait permis aux femmes de prendre une place qu'elles n'avaient pas auparavant à l'usine. Et c'est l'un des premiers éléments, et le second, c'est peut-être ces stratégies que l'on met en place pour résister à la faim.
Oui, ça joue évidemment. On va avoir simplement un problème de capital humain. On a un ensemble d'hommes qui sont soit prisonniers de guerre, soit décédés, et au milieu de la guerre, on commence à avoir le service de travail obligatoire. On va transférer des personnes pour l'effort de guerre allemand en Allemagne. Et ce sont des mouvements massifs. Donc évidemment, les femmes vont prendre un rôle plus important durant la guerre. Ça va jouer un rôle effectivement moteur. Et tout ça, ça constitue de l'impact de la guerre au sens large sur le long terme. Ces déplacements de population, certains vont rester, certains vont avoir des impacts à plus long terme.
du côté de la Syrie, il va y avoir aussi des stratégies de restrictions alimentaires ou de restrictions en électricité qui vont se mettre en place, Leïla Vignal.
Alors, si je peux juste suivre sur ce que disait Kim Osterlink, on observe des choses similaires hein, en Syrie du point de vue de la pénurie de main-d'œuvre, puisque comme il y a 7 millions de déplacés à l'extérieur du pays et 6,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, vous pensez bien aussi que les marchés de l'emploi ont été complètement déstructurés. Et donc, ce que raconte toujours cet entrepreneur syrien que vous nous avez fait entendre, dit précisément ça, la question de conserver son activité et de conserver l'emploi est vraiment très très importante pour les entrepreneurs, puisque la main-d'œuvre les marchés du travail locaux sont complètement démantelés. Donc il y a vraiment la question de la pénurie de main-d'œuvre qui se pose et qui se posera à l'horizon du futur proche et moyen et à moyen terme pour la Syrie. Mais on voit aussi évidemment beaucoup plus de femmes entrer sur le marché du travail. Alors c'est pas massif, mais on l'observe, que les femmes prennent plus d'emplois pour être le breadwinner hein, de la famille. On observe ce même type de phénomène dans la diaspora de réfugiés également, où beaucoup de femmes sont rentrées dans l'activité économique informelle hein, de ce fait.
Et donc des pénuries d'emplois et des pénuries alimentaires, des pénuries d'électricité, et ça a provoqué un retour des pratiques d'autosubsistance, pardon, Leïla Vignal.
Absolument, donc dans cette Syrie en guerre, avec des infrastructures nationales qui sont démantelées du point de vue de la distribution de nourriture, d'électricité, tous les services en réseau ont été démantelés. Et dans le cadre de cette contraction des échelles de la vie économique dont je parlais précédemment, beaucoup de personnes, beaucoup de Syriens se sont tournés vers d'anciennes pratiques de vie beaucoup plus localisées. Dans les campagnes, on voit le retour de la pratique d'une agriculture de subsistance, puisqu'on ne peut plus ensuite exporter sa production. Se remet à construire les maisons avec des méthodes qui étaient employées lors de la période mandataire française, puisqu'on ne trouve plus de ciment et de matériaux de construction. On retrouve l'usage du sage, qui est la manière de cuire les galettes de pain traditionnelles en Syrie. Donc les gens s'adaptent dans un contexte de très grave pénurie. On estime que 3 Syriens sur 4 n'ont pas assez à manger. Les dernières estimations des Nations Unies en matière de pauvreté estiment que 85% de la population syrienne est sous le seuil de pauvreté. Donc il y a à la fois un développement de pratiques alternatives pour survivre au quotidien, mais il y a aussi ce qu'on appelle des mécanismes d'adaptation négative qui sont tout simplement le fait que les gens ne mangent pas à leur faim, peuvent sauter des repas, ont des repas composés essentiellement de pain et d'eau, etc.
Et ce que vous avez constaté, c'est que cette capacité d'organisation, d'auto-organisation en Syrie, c'était quelque chose finalement qui existait déjà avant la guerre et qu'on peut peut-être trouver sur d'autres terrains. Je pense en particulier à la bande de Gaza qui est dans cet état de blocus permanent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement les pratiques de guerre, que ce soit les pratiques d'adaptation et de survie de la population ou même les pratiques de captation de monopoles, et de bénéfices par l'économie de guerre, en fait, on peut les inscrire dans le temps long, des régimes autoritaires et des systèmes économiques autoritaires qui existaient avant dans la région et en Syrie en particulier. Et donc en Syrie, la société avait une capacité d'auto-organisation très forte qui, par exemple, s'illustrait dans le fait que 30% du marché du travail était un marché de travail informel, que 40 à 50% de la construction résidentielle dans les villes était une construction informelle. Donc la société était déjà en partie organisée à côté de l'État, avec d'ailleurs des formes d'organisation qui étaient largement tolérées par l'État, qui n'était pas capable de fournir suffisamment de logements et suffisamment d'emplois dans un cadre formel à ces populations. Donc il est certain qu'il y a des formes de continuité entre les pratiques informelles assez généralisées de l'avant-conflit et les modalités d'auto-organisation pour la survie dans la guerre.
C'est aussi le cas pour la Seconde Guerre mondiale, Kim Osterlink, cette continuité avec des pratiques d'auto-organisation qui pouvaient exister avant le début de la guerre?
Oui, bien sûr, les gens essayent de survivre comme ils peuvent, ils s'adaptent. Il faut surtout comprendre que durant la Seconde Guerre mondiale, il y a une grande disparité entre les pays. Donc vous allez avoir à peu près 7 millions de morts en Union soviétique de famine, dans la partie qui est occupée par les Allemands qui ont finalement un intérêt très limité pour la survie de ces populations. Vous allez avoir d'énormes morts aussi, d'énormes nombres de morts, par exemple en Inde ou en Chine, En Europe de l'Ouest, la Grèce aura en termes relatifs aussi beaucoup de morts, de famines directement. Et ceci, c'est sans tenir compte des personnes qui meurent de maladies liées au fait qu'ils sont mal nourris. Donc, hein, je dirais, on va avoir la tuberculose, des choses comme ça, qui sont des maladies qui vont se développer. Donc, effectivement, on va être dans une économie où les gens essayent majoritairement de survivre. Et ce qu'on va avoir, c'est que si on parle de marché noir, par exemple, à un moment donné, lors du conflit, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est un trafiquant. La question, c'est l'échelle. Et donc, c'est vraiment toutes ces stratégies pour arriver à avoir de quoi manger. Et là, on va aussi avoir des pays qui sont très différents en termes d'autosuffisance alimentaire. Donc, on va avoir des pays où il n'y a pas assez sur le sol national et il faut importer de la nourriture, et d'autres pays qui sont déjà dans une meilleure situation et qui vont pouvoir faire mieux face à la pénurie qui s'installe.
La difficulté d'accès, notamment à un certain nombre de produits alimentaires en Syrie, et la Vignale, c'est lié aussi à l'inflation. L'inflation qui est aggravée par la décision qui a été prise par le gouvernement syrien de dévaluer la monnaie pour combler le déficit budgétaire. Là aussi, ça a encore entraîné une augmentation encore plus importante des prix et dans des zones particulièrement touchées par la guerre. Et là, on parle de zones comme Alep, Dera, des résorts, Idleb ou encore Damas. C'est assez spécifique et concentré, ces zones qui ont le plus souffert peut-être de la guerre.
Bah écoutez, l'inflation, elle a été massive et continue tout au long du conflit. En 2016, je crois qu'elle était déjà de l'ordre de 800% pour un panier de biens en équivalent en 2010. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est... Et la fragilisation de la livre syrienne, de la monnaie syrienne, a été aussi une constante du conflit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, l'État, le régime syrien, essaye d'une certaine manière de faire les poches de tous les hommes d'affaires qui le soutiennent et qui se sont massivement enrichis pendant le conflit, pour essayer justement de soutenir la livre syrienne dans le cadre d'un État qui n'a plus un sou dans ses coffres.
Ils se sont enrichis de quelle façon ?
Ils se sont enrichis à la fois en continuant finalement, donc là aussi il y a des formes de continuité avec le conflit, à bénéficier de marchés publics, de privilèges dans l'accès, par exemple, à l'importation de certains produits, et puis en participant massivement à l'économie de guerre.
Alors on va parler de ces profiteurs de guerre et aussi un peu plus en profondeur de ce marché noir qui se met en place pendant l'occupation allemande. On en parle dans un instant. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women warm, I've been kicked around since I was born. And it's alright, and it's okay, you may look the other way. We can try to understand, a New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking on everybody, shaking their staying alive, staying alive. Ha! Staying alive, staying alive. Ha! Staying alive. All right. Well, I get low and I get high, and if I can't get either, hell, I really try. I got the wings of heaven on my shoes. I'm a dancing man and I just can't lose, and it's all right. It's okay. I'll have to see another day. We can try to understand. New York Times effect on man, yeah. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. People say they're breaking on everybody, shaking, you're staying alive, staying alive. Ha! Staying alive, staying alive. Ha! Staying alive. C'était Staying Alive de The Hormonauts sur France Culture. D'entendez-vous l'écho, Leïla Vignal et Kim Osterling sont toujours avec nous pour parler de l'économie en temps de guerre.
Vous êtes vous le patron?
Ah non, non, non! Je vous ai dit qu'on est pressé! Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein? C'est la rue Le Pic!
Rue Le Pic? Vous m'aviez dit rue du Temps!
Ouais, bien sûr, je prends une grosse différence.
Deux bornes.
Oh, toi maintenant, ferme-la, hein! Question à faire, c'est moi qui ai la parole!
Écoutez, patron, il faudrait s'entendre. Si c'est à Montmartre, vous donnez combien?
C'est bon, je vous donne 50 francs de plus, mais grouillez-vous, hein?
Oh, mais je demande pas l'aumône. Pour Montmartre, ce sera 600 francs par homme ou bonsoir.
Ah, je vois ce que c'est, vous voulez profiter de la situation.
Profiter? Se taper un cochon de la rue Poliveau à la rue Lepic? Se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites? Et les souliers qu'on use, le tout au pas de chasseur, en plein noir, 6 kilomètres?
8.
Oui. Ah, toi, je te demande rien, hein?
C'est bon, disons 400 francs.
Oh, mais à ce prix-là, cherchez des clochards, moi je suis un homme.
Ça va, je fais un effort, 450 francs, 900 francs, pour les deux, hein?
Bon, entendu pour 900.
Voilà un extrait de La traversée de Paris de Claude Autant-Lara avec Bourville, Louis de Funès et Jean Gabin. Kim Ostalings, qu'est-ce que cet extrait nous dit du marché noir qui se met en place pendant l'occupation allemande?
Il nous dit qu'il explose, en fait, ce marché noir. Et donc, on a des personnes qui s'enrichissent. Ce que ça nous dit aussi par rapport à la classe sociale des personnes, c'est que ce sont pas forcément les personnes qui étaient riches avant-guerre qui vont s'enrichir sous l'occupation. Donc, on va avoir un changement dans les inégalités qui vont diminuer sous l'occupation. C'est un peu le paradoxe. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que on voit l'inflation dans la négociation, la vitesse à laquelle on va demander à avoir plus simplement pour aussi profiter, du marché noir. Mmh. Et ces gens qui sont enrichis sur le marché noir, on constate très fortement leur impact, parce qu'ils ont en fait, entre guillemets, deux problèmes une fois qu'ils se sont enrichis. C'est premièrement dissimuler l'argent mal acquis, et deuxièmement, l'investir quelque part de rentable. Et dans l'économie dans laquelle on se trouve en France occupée, c'est extrêmement difficile de trouver des objets d'investissement qui soient peu visibles.
Et c'est là qu'intervient le marché de l'art et l'or en particulier.
Exactement. On a quelque chose de très bizarre. Donc l'État français doit financer des frais d'occupation qui sont massifs. Pour ça, ils émettent de la monnaie et ils essayent de convaincre les gens d'acheter leurs emprunts. Mais leurs emprunts, c'est pas une très bonne affaire parce que vous recevez un taux d'intérêt fixe et qu'il y a beaucoup d'inflation. Donc ils mettent en place un système qu'on va qualifier de répression financière. Ils vont rendre tous les autres objets d'investissement inintéressants pour graduellement forcer les gens quand même à acheter des emprunts d'État. Je donne quelques exemples. À la bourse, on va vous forcer à mettre vos actions au nominatif. Donc à dire, ceci est un titre qui est détenu par Kim Osterling. C'est pas très discret si vous avez fait plein d'argent au marché noir. Tout ce qui est bien réel, c'est difficile. Il y a des rationnements partout. Vous n'allez pas pouvoir acheter des biens réels. C'est difficile à faire. Tout ce qui est immobilier, vous commencez la guerre avec un appartement, vous finissez avec 6 maisons, on va vous poser des questions. Et donc, graduellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une redirection de ces avoirs vers des marchés inattendus. Et on a effectivement le marché de l'art sous l'occupation qui a un boom massif, et c'est vrai tant pour la France que pour la Belgique, pour les Pays-Bas, mais aussi par exemple pour les timbres de collection. Les timbres de collection ont une valeur en termes réels qui est multipliée par 10 sous l'occupation.
Ce qu'il faut expliquer, Kim Ostalings, c'est que ce marché noir se met en place au moment où se met en place sous le gouvernement de Vichy un système de rationnement généralisé et des cartes d'alimentation. Il faut peut-être rappeler un petit peu ce contexte.
Effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, enfin ce que je voulais dire en termes un peu peut-être moins clairs, c'est quand je parlais de difficulté de trouver des biens réels, c'est que vous allez effectivement avoir du rationnement, ce que vous ne pourrez pas acheter. Vous avez de l'argent, vous voulez acheter quelque chose, mais si vous n'avez pas le ticket qui correspond, vous ne pourrez pas l'acheter. Et donc on a effectivement des gens qui ont des ressources, qui voudraient acheter des choses mais qui ne peuvent pas l'acheter sur un marché officiel et qui donc se tournent vers le marché noir. Mais il faut aussi comprendre que les autorités d'occupation, et on l'avait dit un peu avant, jouent un rôle extrêmement singulier. Au début, elles se disent finalement, si on encourage le marché noir, les gens vont sortir leurs biens et on va pouvoir nous les acheter. Donc les Allemands, au début de la guerre, sont des grands acheteurs sur le marché noir. Et puis graduellement, ils changent de position parce qu'ils se rendent compte que ce marché noir permet aussi d'alimenter la résistance. Donc on a vraiment deux périodes. Une période du début où les forces d'occupation tolèrent et sont des grands acheteurs sur le marché noir. Une deuxième période où ils se rendent compte que finalement, pour leur effort de guerre, c'est peut-être pas optimal et qu'il faut plutôt le contrôler plus et le restreindre.
C'est effectivement compliqué pour les autorités de Vichy qui effectivement veulent réprimer ce marché noir, mais il y a d'un côté un marché noir qui permet vraiment une subsistance et une survie d'un certain nombre de gens, et en même temps un marché noir qui permet à des gens de s'enrichir. Mais parmi ces gens qui s'enrichissent, il y a des Allemands, donc les autorités de Vichy sont un petit peu coincées.
Oui, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Ce qui se passe en termes de législation, c'est que assez rapidement, on se rend compte que tout le monde est coupable. Et donc, la législation fait une distinction entre ce que je pourrais appeler du marché noir sur une petite échelle et sur une grande échelle, et qu'on va vraiment essayer de vraiment beaucoup plus s'attaquer à ce qui est du marché noir sur grande échelle. Mais effectivement, c'est extrêmement compliqué d'aller à l'encontre de l'occupant. Et donc, ce marché noir de l'or, par exemple, on sait par des témoins de l'époque qu'il y a des Allemands qui achètent énormément. On sait aussi qu'il y a une segmentation, que les Français préfèrent acheter des Napoléon or, que les Allemands préfèrent acheter des pièces beaucoup plus massives comme le Double Eagle américain ou des lingots. On n'imagine évidemment pas les autorités françaises empêcher un officier allemand d'aller acheter de l'or sur ce marché noir. Ça semble improbable.
Et ce que l'on constate également, c'est que c'est grâce au marché noir qu'un certain nombre d'entreprises se maintiennent pendant l'occupation allemande et qu'elles peuvent notamment se fournir en matières premières, Kim Osterling.
Effectivement, c'est tout le paradoxe de l'économie d'occupation. On a des entreprises qui profitent de l'inflation pour rembourser leurs dettes. Parce qu'évidemment, la valeur réelle de ces dettes a complètement diminué, donc les bilans semblent assez sains, qui ont des problèmes par contre pour avoir leur activité réelle et qui donc doivent se fournir sur des marchés parallèles de manière plus ou moins facile. C'est pas toujours évident non plus de se fournir sur un marché noir.
Quel parallèle est-ce qu'on peut dresser avec la Syrie, Leïla Vignal, sur ce point?
Eh ben, écoutez, on peut en dresser finalement un certain nombre, même si évidemment les paramètres sont pas du tout les mêmes dans le cadre d'une guerre intérieure. Mais on voit, du point de vue du marché noir, on voit effectivement émerger de nouveaux rôles et de nouvelles personnes qui prennent en charge ce marché noir. Alors ça peut être les seigneurs de guerre, des chefs de groupe, etc. C'est bien souvent des marchands qui sont bien implantés localement et qui ont des contacts de tous les côtés et qui donc sont ceux qui transportent la marchandise dans cette Syrie fragmentée que j'ai décrite, de part et d'autre des checkpoints, de part et d'autre de ces frontières intérieures, ce qui veut dire qu'effectivement ils doivent pouvoir à la fois parler et puis évidemment payer les parties qui contrôlent ces frontières intérieures. Ces marchands, ils organisent aussi la pénurie. Dans les zones qui sont sous siège, par exemple, c'est eux qui ont accès à ces zones sous siège avec la bénédiction des acteurs de part et d'autre des frontières intérieures et qui peuvent garder la marchandise jusqu'à ce que les cours soient assez élevés pour qu'ils la vendent. Ce qui fait que ça a conduit à des situations ahurissantes. Par exemple, en 2015, un kilo de sucre était vendu à Damas pour 60 cents de dollars et il était vendu dans la Ruta 500 mètres plus loin, 1 km plus loin, 19 dollars. Donc, vous voyez des culbutes absolument extraordinaires. Donc, il y a d'une part ces personnes qui sont vraiment les acteurs du marché noir, et puis il y a tous ceux qui en bénéficient. Et alors là, on a tous les acteurs du conflit, tous les acteurs militaires du conflit, y compris les militaires de l'armée, les services secrets, les miliciens, qui sont les personnes qui, justement, gèrent ces frontières intérieures et ces points de passage. À Damas, juste pour l'anecdote, le point d'entrée entre la Ruta et Damas, il y avait un grand checkpoint qu'on surnommait le checkpoint million, du million, parce qu'on disait qu'il générait 1 million de livres syriennes de gains par heure avec le passage des marchandises. Et donc tous les militaires du côté syrien voulaient être postés sur ce barrage pour pouvoir bénéficier de cette manne qui était liée à la ponction des biens lors du passage des biens. Et la question de comment est-ce qu'on réinvestit l'argent gagné dans l'économie de guerre, c'est une question qui se pose également en Syrie. Et ce qu'on voit actuellement, c'est une partie des personnes qui se sont enrichies pendant la guerre, qui n'étaient pas les hommes d'affaires d'avant, qui sont en train de réinvestir l'argent du marché noir et de l'économie de guerre dans le secteur formel.
On voit que ces profiteurs de guerre existent évidemment aussi sous l'occupation allemande, Kim Osterling, et qu'ils sont largement pointés du doigt à la fin de la guerre, alors même que ce marché noir va finalement perdurer au moins jusqu'en 1949.
Oui, le marché noir continue après. Il ne faut pas penser qu'à l'issue de la guerre, tout s'arrête et qu'il n'y a plus de trafic. Non, non, ça, ce serait naïf. Ça continue bien après. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans ces économies de marché noir, on n'a pas de recours contre le vendeur malhonnête. Donc, c'est extrêmement complexe dans le sens où ce qu'on a, par exemple, c'est des témoignages de personnes qui expliquent qu'ils ont voulu acheter quelque chose sur le marché noir, qu'ils se sont rendus compte qu'on les a roulés. Mais évidemment, il n'y a aucun recours possible. Vous n'allez pas vous plaindre dans un tribunal qu'au marché noir, vous avez acheté quelque chose qui n'était pas ce que vous pensiez être la vraie chose. On a ça notamment, on a quelques archives qui montrent des plaintes sur du faux or qui aurait été vendu. Et donc, ce marché noir de l'or va continuer bien après la guerre. On continuera à avoir des trafics qui vont perdurer. Oui, évidemment, oui, c'est vraiment quelque chose qui continue parce que la pénurie ne s'arrête pas avec la guerre.
Et c'est un marché noir qui, comme vous le disiez, a pu apparaître aussi, surtout après 1943, comme un acte patriotique, anti-vichiste ou même anti-nazi.
Oui, ça c'est la. En fait, à partir d'un certain moment, la question pour les Allemands, c'est de savoir comment est-ce qu'on occupe la France et comment est-ce qu'on l'exploite au mieux. En fait, la question est assez simple, c'est est-ce qu'on pille, on pille le pays ou est-ce qu'on essaie de rationaliser l'économie pour qu'elle nous bénéficie. Et la position des Allemands change, et à partir de 43, effectivement, ils disent on doit avoir quelque chose de beaucoup plus organisé, et tous ces éléments de marché noir où on pensait au début qu'on y gagnait parce que les gens sortaient leurs biens et qu'on pouvait les acquérir, finalement c'est pas efficace parce que d'autres en profitent, et évidemment... Pour les acteurs du marché noir, c'est un moyen de se redorer le blason pour la libération et dire finalement, grâce à mon marché noir, j'ai aidé la résistance. Je pense que une bonne partie d'entre eux avaient leur profit personnel en tête bien avant les profits de la résistance.
Depuis que l'Allemagne fait la guerre aux Soviets, la main d'œuvre d'un grand nombre de nos prisonniers lui est devenue indispensable. Pendant ce temps en France, les matières premières nous manquent. Nos usines travaillent au ralenti. Le chômage s'aggrave. De nombreux ouvriers sont sans travail alors que l'Allemagne a un besoin urgent de main-d'œuvre. Dans cette situation, un nouvel espoir se lève pour nos prisonniers. Je sais que ce n'est jamais en vain qu'on fait appel à la raison et à la générosité des ouvriers de France. C'est vers eux que maintenant je me tourne, car c'est d'eux, pour une large part, que va dépendre désormais le sort de nos prisonniers. S'ils répondent à mon appel, s'ils acceptent d'aller travailler en Allemagne, je sais qu'ils y trouveront bon accueil, qu'ils toucheront d'abord une prime de séparation, des salaires élevés, et qu'ainsi ils assureront la vie de leur famille, auquel ils pourront envoyer mensuellement une partie importante de leurs gains.
Voilà Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, c'était au mois de juin 1942. On entend bien dans ce discours de Pierre Laval qui met en ligne que le régime de Vichy veut présenter le STO comme une source de revenus pour les travailleurs français. C'est une manière aussi de les inciter.
Ça a l'air presque merveilleux. Non, effectivement, mais il va y avoir effectivement une masse de personnes françaises qui va aller travailler en Allemagne. C'est à peu près 10% de la force de travail française qui va se retrouver là-bas. Donc, c'est vraiment massif. Ce qui va se passer en parallèle, c'est qu'on va aussi avoir des tas de personnes que ça va inciter à rejoindre la résistance, qui vont pas vouloir aller faire ce service du travail obligatoire. Et donc, ça a un double effet. Vous allez avoir à peu près 1 400 000 de travailleurs qui vont aller en Allemagne, mais à côté de ça, vous allez avoir tout un tas de personnes qui vont dire « Ok, mais si c'est pour faire ça, moi je préfère alors... » passer en clandestinité.
D'où l'idée que le marché noir peut aussi être considéré comme un acte de solidarité envers ceux qui n'ont pas accès à l'économie légale, c'est-à-dire justement les maquisards, les réfractaires du STO.
Évidemment, c'est ça qui va être la manière de vendre le marché noir après-guerre, de dire ben voilà, finalement, ça avait quand même des vertus. Même si pour les premières années de guerre, c'est difficile de trouver les vertus qu'on leur donne après. Je veux dire, à partir de la mise en place du service travail obligatoire, effectivement, ça devient un élément important pour la résistance. Ça, c'est vrai.
10% des forces de travail qui partent faire le STO en Allemagne. Ce qu'on constate du côté de la Syrie, c'est que des forces de travail considérables ont disparu aussi parce que énormément de gens se sont déplacés, alors à l'intérieur de la Syrie, mais aussi à l'extérieur. Je vous propose d'écouter ces témoignages de réfugiés syriens installés en Turquie.
Pour nous, les 3 mois d'hiver, c'est comme une année entière de souffrance. On a besoin de chauffage, d'habits chauds, de nourriture. Et quand le temps est vraiment mauvais, on ne peut même pas aller au champ. On est OK pour vivre ici en Turquie. C'est pour ça qu'on ne veut pas aller plus loin en Europe. Si la situation est meilleure en Syrie, on retournera chez nous, travailler la terre, mais la nôtre cette fois-ci.
Voilà le témoignage de réfugiés syriens en Turquie. Ce qu'il faut préciser tout de suite, Leïla Vignal, c'est que ce déplacement, cet exil, a un coût qui est considérable.
Vous voulez dire pour les familles, pour les gens qui se déplacent? Oui, se déplacer, ça a un coût considérable. D'abord, ça coûte de l'argent de se déplacer. Dans cette Syrie, en plus fragmentée, il faut ajouter au coût du transport, d'un transport beaucoup plus raréfié, du fait des destructions, du fait de la dépénurie d'essence, etc., auquel il faut rajouter le coût souvent des passeurs pour passer les frontières intérieures, voire pour passer de façon clandestine la frontière vers des pays de refuge. Et puis surtout, ça a un coût énorme parce que finalement, tout son capital et les Syriens, l'essentiel de leur capital, ils l'investissent dans leur maison, reste derrière, soit que la maison ait été détruite et donc le capital déjà parti, soit qu'on laisse finalement ce capital à la merci du pillage, de l'occupation, soit par des forces miliciennes ou militaires, soit par d'autres réfugiés intérieurs. On perd ses instruments de travail, tous les investissements économiques qu'on a pu faire pour sa vie économique, et puis on perd aussi ses réseaux sociaux, ses réseaux professionnels, familiaux, qui sont tellement importants pour la reproduction de la vie économique. Et souvent, ce qu'on observe dans le déplacement, que ce soit le déplacement intérieur ou le déplacement encore plus vers l'extérieur, c'est que les gens perdent aussi leurs compétences. Alors typiquement, les diplômes acquis en Syrie ne sont pas nécessairement reconnus dans les pays de refuge. C'est tout à fait le cas pour les personnes diplômées, par exemple en Europe. Il y a un grand enjeu de politique d'adaptation autour d'adaptation des diplômes. Mais pour des personnes qui ont plutôt des qualifications professionnelles, cette question se pose aussi. Les réfugiés, que ce soit les réfugiés syriens ou les réfugiés en général de par le monde, expérimentent une situation de dévalorisation professionnelle avant peut-être éventuellement de retrouver un emploi qui correspond à leurs compétences. Donc le coût est énorme, vous voyez, et multiple.
Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il faut avoir déjà une certaine base financière pour pouvoir partir. Il y en a un certain nombre qui ne quittent pas la Syrie faute de moyens financiers.
Oui, donc ça coûte de l'argent de partir. Il faut pouvoir aussi assurer la vie en exil, en tout cas le début de la vie en exil. Donc très souvent, ce que l'on observe parmi les raisons pour lesquelles les gens ne quittent pas, il y en a plusieurs, mais ça peut être effectivement pour des raisons économiques. Les gens sont trop pauvres pour partir.
Et vous racontez qu'au début du conflit, il y a des Syriens qui vous racontent qu'ils avaient des bijoux de côté, qu'ils avaient pu, donc dont ils espéraient tirer un profit important justement en cas de situation extrême comme un conflit. Mais finalement, ces bijoux, ces biens sont vendus principalement au rabais à ce moment-là.
Absolument. Et ce que l'on observe en Syrie, c'est que donc les gens ont dépensé leurs économies, ont dépensé les biens qu'ils avaient achetés, acquis comme filet de sécurité, et notamment les bijoux en or liés à la dot, au mariage, etc., faisaient partie de ces réserves d'argent. Et donc les gens ont été aussi, ce qu'on observe aussi beaucoup, alors évidemment on ne peut pas quantifier ça, mais je pense que ça va avoir un impact absolument massif sur la Syrie de demain, c'est que les gens ont vendu tous leurs biens, alors que ce soit leur voiture, leur maison, parfois leur terre. Donc, il y a eu au cours du conflit syrien, un transfert de propriété qui est lié à beaucoup de raisons différentes, à beaucoup de facteurs, enfin de processus différents, mais une des raisons de ce transfert de propriété qu'on ne peut pas mesurer, mais qui est sans doute très important, est liée juste au besoin de générer des ressources. Autant de biens, propriétés, maisons, terrains qui ont été vendus évidemment à des prix qui ne correspondent pas à leur valeur réelle ou en tout cas à leur valeur d'achat.
Et puis une fois arrivé à l'étranger, dans un nouveau territoire, dans un nouveau pays, il faut pouvoir s'adapter à l'économie de ce pays. Comment est-ce que ça s'est passé du côté de la vallée de la Beka au Liban que vous connaissez bien, Leïla Vignal? Est-ce que ces réseaux d'entraide qui disparaissent se recréent dans les nouveaux territoires qui sont investis?
Alors évidemment, il y a toute la Syrie qui est au Liban d'une certaine manière. Je veux dire, il y a des gens de toutes les régions de Syrie qui se sont retrouvés au Liban dans des contextes très différents, que ce soit des contextes urbains, des contextes ruraux. Donc c'est difficile de généraliser. Mais ce qu'on observe de façon intéressante avec le Liban et avec la Jordanie, c'est la même chose. C'est le fait que beaucoup de Syriens, et notamment des Syriens des régions rurales ou des petites villes de la Syrie, notamment de la Syrie centrale et de la région d'Alep, travaillaient déjà au Liban, soit dans la construction. Depuis les années 90, ce sont les Syriens, les travailleurs syriens qui ont reconstruit le Liban, grosso modo, mais également dans l'agriculture. Et donc ce qu'on observe beaucoup en Syrie, comme en Jordanie, comme dans le nord de la Jordanie, c'est qu'une partie des Syriens qui sont réfugiés sont des gens qui venaient déjà travailler 3, 4, 5 mois par an, notamment dans les champs ou notamment dans la construction. Et c'est finalement ces réseaux antérieurs de la guerre qui ont été réactivés. Donc vous voyez, c'est pas des réseaux syro-syriens. C'est des réseaux déjà transnationaux, syro-libanais ou syro-jordaniens, qui ont été activés pour trouver des ressources dans la situation d'exil.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle de l'État syrien dans cette économie pendant la guerre, puisque, en l'occurrence, les salaires et les retraites des fonctionnaires ont continué à être versés pendant le conflit, y compris dans un certain nombre de zones qui étaient tenues par les rebelles.
Oui, alors l'État est extrêmement contracté, lui aussi, et finalement, c'est une espèce de squelette un petit peu dépouillé de sa chair aujourd'hui, l'État syrien. Mais l'État syrien a continué à assurer un certain nombre de fonctions tout au long du conflit. Effectivement, le versement de salaire des professeurs, salaire des personnels de la fonction publique, a continué d'assurer dans beaucoup de situations la continuation de certains services publics du type infrastructures en réseau, distribution d'électricité, etc., quand c'était des infrastructures en réseau d'échelle nationale.
Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a eu des négociations qui ont été faites avec les rebelles comme avec Daesh pour que cette fourniture en électricité continue. Expliquez-nous cela.
Oui, alors par exemple, il y a ce cas autour des usines de production électrique de Raqqa qui sont liées au barrage de Tabqa, donc il y a un barrage hydroélectrique qui était tenu par l'État islamique donc pendant plusieurs années, comme vous le savez. Il y a eu des négociations avec l'État syrien pour que l'électricité qui est produite à Tabqa et à Raqqa, dans l'usine de Raqqa, continue à être distribué dans le nord de la Syrie, moyennant versement d'un pourcentage de cette électricité à l'État islamique. Mmh. Donc on observe des situations similaires dans beaucoup de zones qui partagent en fait une forme de ressources.
Et alors là où on constate un recul de l'État en Syrie, ce qu'on peut dire de la Seconde Guerre mondiale, Kim Osterlin, c'est qu'elle aurait peut-être fait entrer en quelque sorte la France dans une économie dirigée. C'est souvent ce qu'on entend.
Oui, tout à fait. Je veux dire, on rentre dans une économie où l'État prend une place tellement importante qu'on a vraiment, une économie organisée quasiment par l'État. Il faut comprendre qu'à l'arrivée, à la fin de la guerre, on a une dette publique qui a explosé en France, qu'il va falloir d'une certaine manière repayer, et on a mis en place tout un système pour que tous les investissements retournent vers l'État d'une manière ou d'une autre. Et ça va effectivement mettre des années à se résorber. Et ça va se résorber par de l'inflation, par la continuation, c'est ça qui est assez intéressant, de politiques de répression financière après-guerre. On va continuer à faire en sorte que les banques détiennent massivement des emprunts d'État, simplement parce que si elles décident de les vendre, l'État fait faillite. Mmh. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a une forme de continuité malgré l'occupation à la libération. On aurait pu imaginer que la France libérée décide de répudier les dettes émises sous Vichy. On pourrait très bien dire que c'est un régime qui était tout sauf honorable et que c'était des dettes odieuses. Ça n'a pas été le parti qui a été pris, simplement parce que si on avait pris ce parti-là, l'économie entière aurait été à genoux et les banques françaises auraient fait faillite massivement.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Un mot de conclusion, Leïla Vignal, sur les formes alternatives que peut prendre l'économie en temps de guerre. C'est aujourd'hui ce qui se passe par exemple au Yémen.
Ce qui se passe au Yémen, je ne suis pas du tout spécialiste du Yémen, donc j'aurais du mal à vraiment en parler de façon détaillée, mais on peut supposer qu'on est dans ce même type de contexte de très 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 grande deprivation, comme on dit en anglais, de pauvreté, avec un pays qui est quand même coupé de ses ressources économiques extérieures, de ses importations, dont la situation économique est quand même tout à fait effondrée, un pays qui dépend extrêmement de l'extérieur pour ses importations de nourriture, puisque le Yémen ne produit à peu près rien. Et donc on peut imaginer qu'il y a aussi ces formes de relocalisation de l'économie vivrière pour la subsistance, mais dans un contexte qui est évidemment dramatique. Et vous savez sans doute comme moi que la famine est présente au Yémen.
Kim Osterlin, un dernier mot?
Je peux dire un dernier mot sur plein de choses. Je pense que ce qu'il y a d'intéressant à garder à l'esprit, c'est que la capacité d'adaptation des personnes au conflit est assez impressionnante. Et l'autre élément que moi, qui me frappe à chaque fois quand je consulte des fonds d'archives, c'est à quel point on tente de retourner vers le normal d'une manière ou d'une autre. On essaye, ces acteurs essayent à un moment donné de reprendre une vie normale malgré tout ce qui se passe autour d'eux. Et ça, c'est très frappant et c'est assez impressionnant quand on lit que ce soit des archives de banquiers, des archives d'agents de change, des archives de marchands d'art. On a cette volonté de reprendre une vie quotidienne normale malgré le conflit, et ça c'est quelque chose qui me frappe à chaque fois que je tombe sur des fonds d'archives, cette volonté de revenir vers la normale, vers l'habitude.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le groupe PSA se lance sur le marché des voitures électriques avec une première ligne de moteurs en Moselle. L'occasion de revenir sur la place de la France dans un marché européen marqué récemment par l'arrivée du numéro 1 Tesla.
Oui, la start-up d'Elon Musk qui a choisi la semaine dernière Berlin pour installer sa quatrième Gigafactory. La presse allemande se réjouit plutôt, ne serait-ce que par les 6 à 10 000 emplois qui seront créés et de l'usine de batterie que Tesla implantera à côté. Aussi un marché sur lequel l'Europe est très en retard puisque 90% de ses batteries sont produites en Chine. Cependant, l'arrivée de Tesla en Allemagne se fait aussi au détriment ou en tout cas au dépit de la France, évoquée précédemment comme lieu d'installation. La France où les deux principaux constructeurs ne sont pas les mieux placés pour l'électrification. Renault est sans doute un des plus anciens, mais Tesla est le premier vendeur. PSA ne prévoit son E208 que pour 2021. Elon Musk, lui, louait la semaine dernière l'ingénierie allemande extraordinaire. Alors l'électrique français est-il de ce point de vue en retard? Écoutez ce qu'en disait Tommaso Pardi, co-directeur du JSGR PISA à l'ENS Cachan.
Sous les plans de l'ingénierie automobile, c'est clair que l'Allemagne, non seulement en raison de ses constructeurs, mais aussi de ses équipementiers des premiers rangs, est beaucoup mieux placée que la France et maîtrise davantage de technologies et aussi possède une capacité d'investissement dans les véhicules électriques aujourd'hui. Volkswagen a lui seul annoncé 60 milliards d'euros d'investissement, qui n'est pas comparable avec la capacité d'investissement des entreprises françaises et des équipementiers français. On dit que le fait que Renault s'est engagé plutôt que d'autres dans la voie électrique représente un avantage concurrentiel. D'autres considèrent que puisqu'on ne connaît pas encore quelles seront véritablement les technologies des batteries qui vont être les plus performantes sur les marchés de masse de l'électrique qui s'annoncent pour les années 2020, peut-être cet engagement précoce n'est pas véritablement un avantage concurrentiel. En tout cas, les constructeurs français ne sont pas si mal placés sous les courts moyen terme, puisque ça maîtrise bien les technologies d'hybrides rechargeables qui sont indispensables dans cette phase de transition où il faut passer les caps des normes environnementales de 2021 en Europe. Et Renault possède quand même un des modèles les mieux vendus en Europe sous les segments des voitures moyennes, qui fait donc que les deux entreprises ne sont pas si mal placées que ça, mais il y a une très grande incertitude puisque tout le monde maintenant se mettra à vendre des véhicules électriques et la concurrence va être beaucoup plus rude par le passé.
Un marché du véhicule électrique qui ne représente que 2% du marché mondial et d'autres constructeurs annoncent leur entrée en ce moment, Xavier.
Oui, bonne illustration ce que disait Tommaso Pardi au Los Angeles Auto Show en ce moment. Ford et Audi annoncent leur première voiture électrique de série et surtout Porsche promet que le futur sera électrique, c'est-à-dire qu'il prévoit que d'ici 2025, la moitié de ses voitures seront électriques. Porsche, marque de Volkswagen, qui continue, vous l'avez entendu, son offensive, 60 milliards d'euros d'investissement. En comparaison, les 1 milliard ou les 5, les 1 milliard annoncés par Renault jusqu'à 2022 ou 5 milliards pour PSA jusqu'à 2023 paraissent un peu légers.
On passe au bref, un véritable bol d'air ou bien des hôpitaux sous oxygène. Le Premier ministre Édouard Philippe vient d'annoncer son plan pour l'hôpital public.
Avec trois mesures principales pour les directions d'hôpitaux. D'abord, la reprise partielle de la dette, 10 milliards d'euros sur les 33 milliards et une augmentation, deuxième mesure, de l'ONDAM, c'est-à-dire le niveau des dépenses des hôpitaux d'1,5 milliard. Ces deux mesures sur 3 ans. La troisième mesure est à destination du personnel, un ensemble de primes et de réaménagements de carrière censés encourager les médecins à commencer leur carrière en hôpital et les infirmiers et aides-soignants à y rester plus longtemps. Par exemple, en cumulant deux primes l'année prochaine, un aide-soignant de la région parisienne qui aurait aussi fait une formation en gériatrie pourrait gagner 166 euros de plus par mois. Quant à la gouvernance, elle est reléguée à fin avril prochain. Les syndicats et associations expriment leur insatisfaction.
Et pour finir, 8 pays, dont la France, risquent de ne pas présenter un budget conforme au pacte de stabilité et de croissance européen.
C'est ce dont prévient avec toutes les précautions relations diplomatiques, le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, qui met en avant un risque pour le déficit et la dette. Aucun ne risque cependant dans ces pays de procédure pour déficit excessif, même si la France dépassera cette année la limite des 3% du PIB fixée par l'UE, avec 3,1%, moyen de relancer le débat sur cette règle qualifiée par Emmanuel Macron d'un autre siècle.
Against the bottle, but I had to do it drunk. I took my diamond to the pawn shop, but that don't make it junk.
That don't make it junk, Daily Tuck. Merci beaucoup Leïla Vignal et Kimo Sterling de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans les circuits économiques qui s'inventent et se réinventent en temps de guerre. Merci également à Pierre Benazé et Angélique Bouin qui ont permis ce duplex avec Bruxelles. Demain, c'est l'économie de la reconstruction qui va nous intéresser. On partira en Irak, en Centrafrique et en RDC en compagnie d'Hervé Hutin et de Vink Donaleokila. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous les coups.